On le voit lorsqu'il y a des éclosions, comme ce dont on vient de parler à l'Université Bishop en Estrie, on revient toujours à la même problématique, la capacité du système de santé d'être capable de faire face à la crise, notamment en raison d'un manque de personnel. Le gouvernement qui dit, et c'est un peu paradoxal de la façon qu'on peut voir ça dans les nouvelles ce matin, Jérôme, parce que il y avait la démarche pour les préposés aux bénéficiaires, la volonté d'engager 10 000 nouveaux préposés. Il y en a 6 000 quelques qui ont été formés. Et là, dans une page du journal aujourd'hui, on nous parle du fait qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui quittent l'emploi parce que, bon, il y a des pressions au niveau syndical, les conditions salariales qu'on avait promises, c'est pas exactement ce que c'est, etc. Bref, on peut se questionner sur le succès d'une telle opération à long terme. Et parallèlement à ça, ben, il y a le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui dit pour ce qui est des infirmières, on va essayer de régler le problème un peu de la même façon, en embauchant de façon massive, en formant, en accéléré. Ça va marcher.
Parce que dans son entrevue avec Marc-André Gagnon du Journal de Montréal, Journal de Québec, là, il parle là, des agences, du recours aux agences de placement de personnel en santé. Écoutez bien les chiffres, là, OK? Avril à octobre 2020, on parle de 6 806 360 heures confiées à des agences là, dans le système de santé. Ça équivaut à 3 727 postes à temps complet. Puis ça, le problème là-dedans, c'est qu'il y a une mobilité entre les établissements, parce que les employés des agences vont se promener entre les hôpitaux. Puis il y a toute la question des coûts aussi, là, parce que il y a une facture qui vient avec ça de faire. Moi, je suis pas contre le privé, mais la réalité, c'est qu'il y a un coût, là, d'aller chercher des heures au privé comme ça.
C'est du cannibalisme, là.
Ben, exactement.
Qui se fait. On va en discuter donc avec Laurier Ouellette, qui est président de l'exécutif du syndicat des infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes en Chaudière-Appalaches. Monsieur Ouellette, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Est-ce que le ministre de la Santé met le doigt sur le bobo, sur un des bobos, lorsqu'il parle de la mobilité qui est causée par le grand nombre d'infirmières, d'infirmiers qui passent par le biais des agences de placement?
Totalement. Ça fait des années que la FIC dénonce ça, que nous autres, comme syndicat, on dénonce ça, puis c'est une problématique qui est amplifiée à cause de la COVID. Maintenant, moi, j'ai de une personne à cinq personnes par semaine qui quittent pour s'en aller dans les agences.
OK, pour aller travailler, parce que c'est plus attrayant pour le personnel, c'est ça?
Mais les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Le monde pour les agences ne peut pas se faire avoir des temps supplémentaires obligatoires. Ah. Ils ne font pas de 16 heures. Ils choisissent leur corps de travail. Ils choisissent combien de journées qu'ils veulent travailler dans la semaine. Fait que, puis tandis que dans le milieu de la santé, plus que ça va, j'ai mes infirmières auxiliaires puis Nalo font 1 à 3 supplémentaires obligés par série. Ça n'a aucun sens. Ils ont des familles, ils ont des enfants. Imaginez-vous, ils commencent à travailler à 8 heures du matin, puis ils apprennent à 3 heures qu'ils resteront pas. Faut qu'ils trouvent la gardienne. C'est des détresses, puis par-dessus détresse. Puis moi, j'en ai beaucoup de mes membres qui tombent en maladie. Ils n'ont pas d'autre choix. C'est ça.
Mais là, vous parlez des conditions, là, des horaires, tout ça. Au niveau salarial, entre travailler pour le gouvernement ou travailler pour une agence, ça se compare comment, monsieur?
Ben écoutez, il y a des agences qui payent 65 $ de l'heure. Là.
Oui.
Non, puis ils payent 65 $ de l'heure. Fait que c'est beaucoup plus attrayant. Oui, ils n'ont pas de fonds de pension, mais ce monde-là vont payer le fonds de pension aux autres mêmes.
J'essaie de comprendre, M. Ouellette, parce que le gouvernement nous a dit s'est engagé à mettre fin à la mobilité, donc des infirmières ou des préposés se déplacent d'un CHSLD à l'autre, d'un hôpital à l'autre, d'une zone rouge, à une zone orange, à une zone verte, etc. C'était au cœur du plan de match pour la deuxième vague. Mais là, en même temps, on nous dit que dans les 6 derniers mois, on s'approche du nombre d'heures totales, normalement sur une année, qui sont confiées à des agences. Je comprends pas, là. Est-ce que ça veut dire que finalement, c'est de la poudre aux yeux puis que la mobilité, ils continuent à en avoir? Est-ce que les agences essayent d'éviter la mobilité? C'est quoi le portrait exact de la situation?
La mobilité, nous autres, dès que nos membres se rendent compte qu'ils sont qui sont victimes de mobilité, ils nous appellent, on agit. Mais question d'agence, on n'a aucun pouvoir. On sait pas d'où ce qu'ils viennent. Je sais qu'il y en a qui travaillent, mettons, à Québec. Après ça, ils s'en viennent travailler au CHSLD. Ils retournent au bord. C'est sûr que ça risque de provoquer beaucoup de contamination.
Comment ça se fait?
On le voit.
Comment ça se fait qu'on se retrouve à confier 6 806 360 heures entre avril et octobre à du personnel qui provient des agences? C'est-tu une mauvaise organisation? C'est-tu les congés de maladie du personnel? Comment on en vient à ça, à votre vision, là, à votre avis?
ben c'est une gestion, mauvaise gestion. Puis nos membres sont traités comme si ce serait des numéros. Fait que tu sais la gestion facile, c'est de dire à soi, tu restes, il me manque quelqu'un, tu restes. Fait que ça a été utilisé par l'économie. Il faut pas penser que du taux et demi, là, ça coûte cher au gouvernement. Ça coûte moins cher au gouvernement que d'engager quelqu'un à temps plein. Avec un mois de vacances, ils n'ont pas de mois de vacances à donner. Fait que eux autres, c'est tout ça. Mais là, ils sont embourbés parce que, puis ils ont une surprise, parce qu'il y a plein de monde qui démissionne. Il y a plus de 2000 infirmières qui ont démissionné cette année dans la grandeur de la province de Québec. Mais ça va continuer. Ça se rend à 3000, 4000, 5000. On risque l'hécatombe bientôt. Après Noël, j'ai hâte de voir. Ben non, j'ai pas hâte de voir, ouais. Mais nos membres sont épuisés. Je sais pas ce qui va se passer.
C'est quoi la réalité sur la prépondérance des postes à temps partiel? Et tout le monde convient que les infirmières, les infirmiers travaillent fort, le temps supplémentaire obligatoire, tout le monde trouve ça inacceptable, mais il y a toujours des gens qui reviennent avec le fait que il y a peut-être beaucoup de monde qui veulent pas avoir de poste à temps plein parce que le poste à temps partiel fait en sorte que on tombe plus rapidement en temps et demi, temps double. Est-ce que c'est un mythe tout ça? Comment on peut expliquer le fait qu'il y a bien des gens qui tiennent ce discours-là, monsieur Ouellet?
Ben, c'est une réalité, mais la réalité est la suivante. Quelqu'un qui a un temps partiel à 7 jours, OK, et qui a 7 jours de congé, puis qui se voit obligé de faire 1, 2 ou 3 supplémentaires obligatoires par semaine, je peux vous dire qu'ils ont besoin de 2 séjours pour se reposer. Imaginez-vous un temps plein qui se fait obliger, qui fait 10 jours en ligne, puis qui est obligé d'avoir, qui a juste 4 jours de congé, mais par contre, qui fait 1, 2, 3, 16 heures en ligne, ça n'a aucun sens. Le monde veut leur venir parce que, mais s'il n'y aurait pas de temps supplémentaire, si toutes les agences, toutes les heures qui seraient données aux agences seraient dans le système public, il n'y aurait pas de temps supplémentaire.
C'est quoi
si la gestion serait meilleure, il n'y en aurait pas.
Ouais. C'est quoi les solutions à court ou à moyen terme, là, M. Ouellet? Parce que là, on a beau dire, on veut embaucher, mais encore faut-il qu'il y ait des gens, qu'il y ait des candidats à embaucher qui ont été formés, qui ont été... Là, je sais qu'on a voulu accélérer la formation des préposés, mais vous, là, comment vous voyez ça, là, à moyen terme? Comment on peut essayer de régler ça, en partie à moyen terme, là?
Bien, première des choses, si les agences, OK, les agences, on ne pourra pas les éliminer, ils ont leur place, mais ils ont leur place dans le privé. Mais c'est pas vrai que moi, mon infirmière qui démissionne de chez nous, puis qui s'en va pour l'agence, puis que le lendemain, l'employeur leur engage à combien de l'heure, je ne sais pas comment ils payent les agences, ça faudrait vérifier. C'est comme top secret. Est-ce que ça coûte 75$, 100$ que les agences sortent? Puis le lendemain, ils travaillent, mais ils choisissent le corps de travail, ils choisissent le où est-ce qu'ils vont travailler. Fait que, t'sais, pour nous autres, ça fait aucun sens. L'idée, c'est de ralentir toute la demande des agences, puis que ça va remplir le système public. Puis que le monde va pouvoir avoir des conditions de travail décentes, puis il n'aura plus de temps supplémentaire. Ou il va toujours en rester un petit peu, mais pas à ce niveau-là.
Mais iriez-vous jusqu'à interdire le recours aux agences de placement, le limiter, mieux le baliser? Comment ça fonctionnerait?
Le baliser, pour le public, on prend pas les agences. À moins d'exceptions, mettons dans le Nord, dans le Grand Nord, où est-ce que sont essentiels, où est-ce que c'est utile. Mais le reste, ici... Si les agents ne sont pas engagés, même s'ils engageraient des infirmières ou infirmières auxiliaires ou inhalo, puis qu'ils n'ont pas de travail à lui donner, ben ils vont revenir dans le public. Là. Et les conditions vont être meilleures. C'est un cercle vicieux, en réalité. Là.
L'embauche massive, là, ce qui est proposé par le ministre Dubé, est-ce que c'est une solution? T'sais, dans les faits, moi, je me demande, si on prend toutes les infirmières qui sont en agence, qu'on les ramène dans le système public, est-ce qu'on a assez de monde en ce moment ou il y a vraiment une nécessité d'en former beaucoup plus?
On a assez de monde, mais il faut rendre le temps plein attractif, par contre, aussi. Dans le sens que il va être attractif si nos infirmières auxiliaires et inhalo ont des conditions de travail décentes, s'ils restent sur le même corps de travail, s'ils peuvent avoir le congé. À l'heure actuelle, là, nos membres ont pas le congé. Ils ont pas le congé de fête. Ils ont bien beau mettre des fériés, c'est difficile d'avoir des congés. Ils sont surmenés. Mais c'est une question de temps. Ça fait 8 mois que ça dure à l'heure actuelle. Les fêtes sont pas passées. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver.
En terminant, quelqu'un nous écrit sur notre messagerie texte, bannissez les agences. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, vous? Une solution aussi extrême que ça, c'est pas vraiment envisageable, j'imagine, non plus. Là.
Non, je pense pas. Je pense que les agences, ils peuvent être utiles dans les CHS, dans les résidences privées.
Oui,
ils peuvent être, ils ont leur place, là. Mm. On peut pas bannir. Je pense qu'on est une démocratie, non? Puis ils ont sûrement leur place. Mais pour ce qui est du public, faut mettre une loi comme de quoi que les agences, ils pourraient pas être engagés à moins d'extrêmes extrêmes besoins comme le Grand Nord ou quelque chose de même.
En terminant, comment ça va les négociations? Là? On va-tu finir par avoir une entente, un renouvellement de convention collective ou vous faites du surplace encore?
Ben écoutez, pour moi, personnellement, je pense que c'est du surplace. C'est sûr qu'on va, on s'informe, on se tient au courant. On a une réunion justement cet après-midi pour ça. Mais j'ai hâte de voir.
Monsieur Ouellet, on va suivre ça. Merci beaucoup.
Merci.
Merci,
Laurier Ouellet, président de l'exécutif du syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes Chaudière-Appalaches.
Bannir les agences, c'est pas la solution, clairement pas. Mais je comprends le raisonnement qui est derrière ça. Mais la réflexion qu'il faut avoir, c'est, puis écoute, ça fait des années qu'on a ça, c'est comment rendre cette profession-là attrayante. Parce que la réalité, là, puis il l'a très, très bien expliqué, c'est que si tu travailles pour une agence, de un, le taux horaire est plus intéressant. T'as pas de temps supplémentaire obligatoire. Mettez-vous à la place, là, dans la tête d'un infirmière, d'une infirmière, d'un infirmier préposé, là. Vous avez le choix entre deux systèmes, là. Un système qui va te dire, il faut que tu fasses du temps supplémentaire obligatoire. Tu vas travailler les fins de semaine. Tu peux pas prendre, les congés que tu veux nécessairement. Tu sais, vous savez ce que c'est la réalité, le quotidien d'une infirmière, du personnel infirmier. Ou t'as le choix d'aller travailler pour une agence. Tu vas organiser ton horaire un peu. Tu vas travailler soit de nuit ou de jour à ta convenance. On va te donner les chiffres que tu veux, qui font ton affaire, avec un taux horaire plus élevé. Qu'est-ce que vous pensez que certains ou certaines vont se dire, là, dans ce choix-là, là? Toi, est-ce que tu recommanderais à tes enfants de faire une carrière en soins infirmiers, présentement, là?
Non.
Si tes enfants étaient en processus de choix de carrière, ils sont jeunes un peu encore. Puis je le dis pas en manquant de respect pour le personnel infirmier, ma propre mère est infirmière, puis elle m'a toujours dit, va pas là-dedans. Regarde, c'est...
Le temps supplémentaire obligatoire, c'est inhumain.
Exactement ça. Ça n'a pas de sens. Ils sont débordés, c'est l'épuisement, c'est ça n'a aucun sens. Donc, faut mieux les traiter. Moi, je suis toujours d'accord, Joe, à ce que les médecins et les médecins spécialistes soient bien rémunérés. Mmh. Mais j'aimerais ça aussi que les autres employés du réseau de la santé aient un traitement aussi équivalent. Ben, je ne te parle pas au niveau financier,
mais c'est ça.
Un respect équivalent à celui que les médecins
ont. Exact, mais ce n'est pas uniquement financier. Puis, et le problème, et je n'ai pas la solution parfaite dans le cas des infirmières et des infirmiers, mais c'est que j'ai toujours peur qu'on ait le réflexe de tirer vers le bas plutôt que tirer vers le haut. Puis je vais te donner l'exemple de Uber versus les taxis. Quand Uber est arrivé, il a commencé à manger le lunch des taxis.
Ouais.
Ça a été quoi le premier réflexe? Ça a été de dire, il faut leur interdire de faire ce qu'ils font, qu'ils se démarquent. Faut les ramener là en bas avec nous autres. Ce qui n'était pas la bonne solution. À la place, il fallait tirer les taxis vers le haut, déréglementer, leur donner plus de latitude à eux autres.
Et voilà.
Tarification dynamique était là la solution. Donc, dans le cas des agences de placement pour les infirmières, je pense pas que moi, la solution, ce soit de dire, il faut les interdire. Mais c'est de voir qu'est-ce qu'il y a dans les conditions que les agences offrent qu'on pourrait essayer de répliquer, mais là, peut-être que dans les acquis syndicaux, la hiérarchie, l'ancienneté, etc., peut-être qu'on viendrait toucher à des acquis qui sont qui sont intouchables pour bien du monde. Mais il y a une question qui se pose là. Qu'est-ce qu'on pourrait refaire qui se fait dans les agences? Je comprends là, qu'on les paiera pas 75$ de l'heure, là. Mais y a-t-il des éléments qu'on pourrait faire dans le public pour essayer d'augmenter l'attractivité du public?
Ben c'est ça, c'est que ce n'est pas une profession attrayante. Il y en a peut-être qui rêvent à ça, devenir infirmière, devenir préposée, mais on s'entend-tu que